Esprit de justice qui ce soir va se demander mais pourquoi nous sommes aussi intéressés par les affaires criminelles. Les noms de Violette Nozière ou des sœurs Papin continuent de sonner à nos oreilles, certainement plus d'ailleurs que les présidents du conseil de leur époque. Il en va de même aujourd'hui pour le nom de Maradade ou du petit Grégory Villemain ou de Xavier de Ligonnès. Cette célébrité est à vrai dire ambigu, en témoignant à la fois d'une époque, d'un lieu, d'un journal, parfois même d'un avocat, voire d'un juge, et d'une affaire. Elle montre, en tous les cas, l'intérêt de nos contemporains pour certaines affaires criminelles qui défrayent la chronique et auxquelles sont consacrées des émissions spécialisées. À la télévision aujourd'hui, fait entrer l'accusé, mais aussi des romans, des films, et aujourd'hui, des podcasts. Qu'est-ce qui nous attire dans les affaires criminelles? Est-ce simplement le goût de l'énigme ou un goût un peu morbide pour le sang? Un intérêt qui serait encouragé par un dispositif médiatique d'attention auquel se prête fort bien une affaire criminelle? La trace, l'indice, le suspense, l'énigme, la relance, des aveux, ou au contraire la frustration des aveux, même après le procès. Mais je crois que la raison est plus profonde probablement, tant le crime horrible donne l'occasion d'élaborer la part archaïque dans notre société et en nous, et de réactiver des invariants anthropologiques, et je pense bien sûr au mécanisme du bouc émissaire, parce que ces crimes s'offrent à nous comme le laboratoire des dilemmes de la liberté, du passage à l'acte, en détaillant comment des gens ordinaires, un médecin tranquille, un notaire de province, un banquier à qui tout sourit, peuvent devenir soit criminels, soit victimes. Cet intérêt pour le crime a enfin partie liée avec la société démocratique qui n'a plus des grands récits d'explication du mal comme la religion ou l'utopie politique. Et la figure du criminel se pose alors comme un héros, voire un mythe moderne ou post-moderne. Ce sont quelques-unes des hypothèses qui sont explorées par deux frères, philosophes tous les deux, qui ont publié aux éditions Actes Sud un livre intitulé « Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles » et Esprit de justice a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Roux. Emmanuel Roux est philosophe de formation, aujourd'hui il est conseiller à la Cour des comptes, donc il est haut fonctionnaire, il a publié plusieurs ouvrages et notamment Machiavel, La vie libre, la collection Raison d'agir, et puis un livre sur Orwell également, et le dernier, je crois, Guy Debord, Abolir le spectacle, aux éditions Michelon.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Emmanuel Roux.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors merci d'être venu parler de ces affaires. Je suis content d'avoir mentionné votre livre sur Guy Debord parce que je crois qu'il a profondément à voir avec le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire les affaires criminelles. Vous insistez sur le fait qu'il s'agit bien d'affaires criminelles, pas de faits divers.
Oui, parce qu'au fond, on a toujours été frappé par le fait que le fait divers souvent passe. Il est emporté par le flux de l'actualité. Il a un côté parfois un peu jetable, un peu répétitif. Mais a contrario, il y a des affaires qui au départ naissent comme des faits divers, mais qui au fond restent, s'incorporent à la mémoire collective, continuent de susciter de l'étonnement, de la perplexité, du questionnement, sujet dont on peut parler interminablement, comme d'autres faits de la culture populaire. On peut refaire interminablement un match de football, on peut parler de manière interminable d'une affaire. Qui est le coupable? Pourquoi une affaire nous intéresse autant? On peut confronter les points de vue. Lorsque, par exemple, on est devant quelque chose qui est non élucidé, chacun finalement a sa théorie. Et finalement, tout ça, au fond, marque beaucoup plus profondément la société qu'on ne le pense. Vous savez, il y a des classiques bien de sûr. La littérature, il y a aussi des classiques sociaux, oui. Il y a des classiques sociétaux et les affaires criminelles en font partie.
Dont finalement, l'affaire Princeps, ce serait peut-être l'affaire Dreyfus. Est-il coupable? N'est-il pas coupable? Les éléments, le petit bleu, etc. Et finalement, c'est une affaire qui a marqué profondément la France et qui avait une dimension politique, qui avait beaucoup de dimensions. Une affaire gigogne qui révélait aussi la question de l'antisémitisme et de la figure du juif dans les institutions. Et vous insistez sur le fait qu'une affaire criminelle, c'est une affaire à tiroir.
Bien sûr. On dit souvent que c'est un fait social total, qui a une dimension évidemment criminologique, mais qui peut aussi avoir une dimension politique. Par exemple, beaucoup d'affaires criminelles des années 60-70 ont été très liées à la question de l'abolition de la peine de mort, ont été très liées à la question aussi de l'avortement. On peut penser au procès de Bobigny. Plus près de nous, un certain nombre d'affaires ont vraiment marqué les esprits parce qu'elles étaient liées à des problématiques sociétales comme par exemple le féminicide. On pense à l'affaire d'Aval, à l'affaire Jacqueline Sauvage, etc.
Donc Gisèle Halimi et
Gisèle Halimi, etc. Dans les années, dans les années 70. Donc effectivement, c'est un fait social total qui a une dimension à la fois politique, criminologique, familiale et qui, au fond, je dirais, comme un classique, finalement. D'ailleurs, quand on réfléchit, beaucoup de nos chefs-d'œuvre de la littérature, Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, L'Étranger, sont liés aussi à des affaires criminelles.
Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'elles font écho. Elles ont des dimensions sociologiques. Elles permettent, vous insistez là-dessus, et j'ai trouvé ça très intéressant d'hier, de parler d'un lieu, la Valogne, dans les Vosges. Bon, voilà, c'est devenu un lieu que, comment dirais-je, que tout le monde connaît. C'est un peu comme le Tour de France de ce côté-là. Mais elles font écho. Elles font écho à quelque chose de profond en nous.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la manière dont elle marque l'espace, vous faites référence à la Valogne, mais il y a beaucoup de lieux dans la géographie française, qu'il s'agisse de petites villes, de villages, de villes, qui fait que l'affaire criminelle marque aussi profondément son espace. De ce point de vue-là, elle est vraiment multidimensionnelle, et c'est ce qui fait qu'elle reste dans la mémoire collective et qu'elle ne passe pas. Et c'est finalement l'interrogation sur les facteurs de cette attraction, de cet intérêt, de cette fascination, on peut utiliser les mots qu'on veut, qu'on a essayé d'interroger dans le livre, en parlant aussi de notre propre intérêt, de notre propre attraction pour ces affaires, mais en essayant de le resituer dans un contexte plus large et aussi dans le temps.
Alors Emmanuel Roux, abordons le fond, la grande question de cette émission et de votre livre que vous avez écrit avec votre frère Mathias Roux. Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui retient notre attention? Est-ce que c'est, on pourrait dire, dans une première hypothèse, c'est une fabrication médiatique, ça vend du papier?
Alors, il est évident que l'affaire criminelle a quelque chose à voir avec la presse, avec le médiatique. Au 19e siècle, le fait divers est évidemment fait vendre énormément de journaux.
L'affaire Troppmann décuple les ventes du Petit Parisien qui ne vont pas baisser ensuite.
L'essor de la presse est lié à la fascination ou à l'attraction de l'affaire criminelle ou du fait divers. Plus près de nous, on voit quand même que deux très grandes affaires qui nous font rentrer, à mon avis, dans vraiment le contexte contemporain, que sont l'affaire de Brouet en Artois en 1972 et l'affaire Grégory, l'affaire Villemain en 1984, sont aussi des affaires qui ont pris cette résonance très forte parce que tout d'un coup, les médias s'en sont saisis au point de le feuilletonner, au point même d'ailleurs de contribuer même une sorte à l'orientation de l'enquête, à la fabrication du coupable. Dans l'affaire Villemain, il est clair que la fabrication du coupable, notamment le fait de désigner la mère du petit Grégory comme étant évidemment la coupable.
Et c'est la même chose dans un Artois. On fabrique un faux coupable.
C'est exactement pareil. À l'époque, La Cause du Peuple, Serge Julie et d'autres, etc., désignent nommément le notaire parce que c'est un bourgeois, etc. Donc cette culpabilité, elle est venue d'une désignation par la presse. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, ce qu'on observe en ce moment, c'est que c'est plus tant d'ailleurs le médiatique qui s'empare de l'affaire, ce sont presque parfois les protagonistes qui s'emparent de l'affaire. Je me souviens du procès d'Aval, par exemple, où la famille de la victime, la famille d'Alexis Daval.
En deux mots, le procès d'Aval.
Le procès d'Aval, c'est Jonathan Daval, assassine sa femme, à Grès, dans la Haute-Saône. Bon, voilà, c'était un féminicide relativement classique, mais qui a beaucoup marqué les esprits parce que pendant un certain nombre de semaines, il apparaît aux yeux de la population française comme le veuf éploré, qui ne cesse de pleurer, de mettre en scène sa propre détresse, alors que c'est lui-même l'auteur du crime. Et ce qui était frappant dans le procès, c'est que à toutes les interruptions de séances, etc., la famille, les parties civiles, la famille de la victime, Alexia Daval, Alexia Fouillot, etc., tenait des points presse. C'est-à-dire, racontait finalement ce qui se passe dans le procès, comme auparavant, la famille racontait aussi l'instruction. C'est-à-dire que le médiatique, oui, mais je pense aussi que les protagonistes aussi se saisissent du médiatique pour, d'une certaine manière, aussi faire valoir le droit ou en tout cas les intérêts des parties civiles. Alors, le médiatique explique beaucoup de choses, mais pour moi, il ne fait pas l'affaire.
Oui.
Il ne la constitue pas, pour une raison simple aussi, c'est que le récit médiatique est souvent un récit qui reste quand même très criminologique. Alors que nous, notre thèse, c'est que finalement, ce qui constitue une affaire criminelle, c'est qu'elle déborde son cadre criminologique. Elle a un statut qui, de notre point de vue, s'explique davantage par le rapport au réel, finalement, qu'elle tisse.
Il y a deux traits communs qui frappent, moi, dans les affaires dont on parle. Parce qu'il y a une sélection, quand même. Une sélection sur les 1500 gros homicides par an qui se produisent sur notre territoire, on en sélectionne deux ou trois. Il y a quand même des constantes. L'affaire de Bruet en Artois, comme l'affaire du petit Grégory, ce sont deux infanticides, ce sont les enfants qui en sont victimes, et ce sont très souvent des affaires de famille, Emmanuel Roux. C'est-à-dire que la famille qui est vraiment le lieu, par définition, du tragique.
Oui, très grand nombre d'affaires criminelles sont effectivement des affaires qui sont nées dans l'intimité conjugale, dans l'intimité familiale. Ça, c'est indéniable. Qu'on prenne, vous avez cité Bruet en Artois, on peut citer l'affaire Dupont de Ligonnès, évidemment. On peut citer l'affaire Villemain, on peut citer l'affaire Godard. Donc, ça veut dire d'ailleurs que ça touche quelque chose de profond. Mais je crois que moi, le statut de l'affaire criminelle par rapport aux faits divers, c'était votre première question, en fait, tient aussi au fait que dans l'affaire criminelle, on est confronté au réel dans ce qu'il a de véritablement de plus puissant. C'est des histoires de corps, c'est des histoires de sang, c'est des histoires de passion, de pathos. Et puis ce sont des histoires aussi qui vont tout d'un coup nous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui finalement résistent à notre entendement, à notre raison, à notre compréhension des choses. Le mal, l'incapacité aussi à élucider, la disparition, l'énigme. Ce sont beaucoup d'affaires aussi qui vont interroger notre rapport au temps. On a dans le livre tout un chapitre sur le rapport à l'espace et temps, notamment à la question de l'oubli, de la question de la prescription. Ça va interroger notre rapport à la vérité. Ça va interroger aussi notre rapport à l'identité. Et donc, en fait, quand on regarde, tout ça, ce sont des sujets qui sont, au fond, éminemment existentiels et qui, en fait, débordent complètement dès qu'on aborde une affaire criminelle.
Est-ce que vous seriez d'accord pour établir une corrélation entre tout ce que vous venez de dire, cette litanie, cette théorie, on aurait dit, de motif d'intérêt, avec la disparition des grands récits? Avec le fait que on s'intéresse, les modernes, nous intéressons à ces affaires parce que, eh ben, on n'entend plus parler de la vérité, ni du mal, ni du tragique dans des récits comme la religion ou l'utopie politique.
Oui, c'est une de nos thèses d'ailleurs, c'est que l'affaire criminelle peut être perçue comme une sorte de mythe postmoderne. On a un chapitre du livre en clin d'œil à Roland Barthes qui s'appelle Crimitologie, justement parce que au fond, vous avez parlé de la fin des grands récits, donc c'est-à-dire qu'au fond, la société n'est plus traversée par une forme d'espérance collective. Elle se veut très fonctionnelle, elle se veut très rationnelle. Elle considère que finalement notre bonheur collectif, c'est finalement d'essayer de maîtriser au maximum la négativité, le négatif. Nous sommes des sociétés positivistes de ce point de vue-là. Et en même temps, nous sommes en permanence rattrapés par ce que Bataille appelait cette part maudite, hein, ou cette irréductibilité du mal et du tragique. Nous sommes en permanence rattrapés et finalement, d'une certaine manière, ça à la fois nous effraie et nous rassure. C'est-à-dire sur, au fond, notre humanité qui fait que, en dépit d'une volonté de rationalisation de part en part, on est finalement toujours rattrapé par le réel anthropologique de notre condition.
Alors, vous avez écrit un livre, je vais le rappeler, Emmanuel Roux, sur Guy Debord. Guy Debord, Abolir le spectacle. Et je reprends une idée que j'ai lue sous votre plume, qui me semble quand même importante pour ouvrir cette émission. C'est la passivité du lecteur, la passivité de ceux qui s'intéressent aux grandes affaires. Dans le fond, ils s'intéressent à des affaires pour lesquelles ils ne peuvent rien. Ça sera décidé par d'autres. C'est les gendarmes, c'est le procès, on en parlera tout à l'heure. Ce sont des institutions où ça montre le défaut des institutions. Donc, le lecteur est intéressé par quelque chose pour lequel il est totalement passif.
Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'une des raisons aussi de l'attraction tient au fait que l'affaire criminelle, c'est quelque chose qui peut m'arriver. Il y a une forte de proximité très forte. On s'identifie aux familles. Quand on est parent, on s'identifie à un enfant qui a été enlevé, qui a été séquestré, qui a été assassiné. Je vous ai dit, le poids de l'intimité familiale et conjugale dans les affaires fait qu'on peut tout c'est à ça. Fait s'identifier. Et en même temps, ça ne m'est pas arrivé à moi. Et donc, il y a cette espèce de mélange à la fois de d'effroi et en même temps de tranquillité. Un peu, vous savez, comme quand on roule sur l'autoroute, tout d'un coup, il y a un accident. On jette un coup d'œil avec ce mélange à la fois d'empathie et en même temps de sentiment d'avoir échappé à quelque chose qui aurait pu m'arriver. Et donc, en fait, on est plus impliqué qu'on ne pense dans l'affaire criminelle. Et c'est pour ça que ce jeu entre le regard et l'affaire est pour moi est aussi au cœur de la conscience moderne.
Et ça expliquerait pourquoi on parle rarement des truands. C'est autre chose, les affaires de truands, les affaires de French Connections. Là, ce sont souvent des gens ordinaire, c'est souvent des monsieur tout le monde, c'est le docteur Godard, c'est Dupont de Ligonnès, le bon chrétien, tout rapport, qui a une particule en plus.
Oui, c'est le docteur Roman, qui a une façade sociale extrêmement respectable, médecin à l'OMS.
C'est ça, le paradoxe du docteur qui tue. Du docteur qui s'occupe des autres, mais qui tue sa famille.
Alors ça pourrait faire un chapitre en soi, parce qu'il y en a beaucoup. Pas simplement le docteur Petiot, il y en a beaucoup, ceux qui sont en charge de s'occuper des autres, des âmes, des corps, et qui en fait utilisent aussi leur situation pour pouvoir assouvir leurs instincts criminels. Ça, il y en a effectivement.
Et c'est ce paradoxe qui nous parle, parce que finalement, pour ceux qui s'efforcent de mener une vie honnête, est-ce qu'ils ne purgent pas leur pulsion criminelle par procuration?
Je pense qu'il y a la conscience au fond de chacun de nous, un peu à la fois confuse ou lucide même, que nous sommes tous potentiellement capables de passer à l'acte, en fait. C'est cette espèce de fragilité du passage à l'acte qui fait qu'au fond, l'affaire criminelle, elle met en jeu des événements qui sont à la fois loin de moi, parce que finalement, c'est une forme de marge, de déviance et autres, et en même temps, donc je ne peux pas dire par avance que j'en serais totalement préservé ou protégé, soit en tant que victime, soit en tant qu'auteur moi-même.
C'est un peu l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous dites dans le livre, vous dites, c'est ce côté reset, c'est-à-dire je repars à zéro, j'efface tout et je recommence. Oui,
c'est probablement un des aspects les plus fascinants pour expliquer l'acte qui est de se dire finalement je remets ma vie en jeu. Alors toute la question pour Xavier Dupont de Ligonnès, c'est la dimension métaphysique,
c'est ça,
théologique, surnaturelle de ce reset. Est-ce que c'est un reset temporel ou est-ce que c'est un reset dans un autre monde? Quelle est la nature de l'autre monde?
Born again, au sens fort du terme.
Exactement. Quelle est la nature de l'autre monde pour Xavier Dupont de Ligonnès? Et en fait, depuis 11 ans, 12 ans, on est tous dans cette interrogation. C'est quoi pour lui l'autre monde? Dans quoi s'est-il projeté? Dans quoi a-t-il disparu?
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh, silence, vous faites évacuer la chambre.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter des cendres. Et là, celle montait et descendait en cendres. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu. Il a dans ta cheminée trouvé un nid calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. La barbe rasée et la moustache frisée, plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, Landru, tout passe avec le temps. À présent, tu ne fais plus peur aux enfants.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de s'intéresser à notre intérêt pour les affaires criminelles en compagnie d'Emmanuel Roux, philosophe et haut fonctionnaire qui a signé un livre avec son frère sur le goût du crime et qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Charles Trenet, Landru. Landru, mais tout le monde connaît Landru.
Alors j'ai choisi Landru parce que au fond, on discutait il y a un instant de la question du mythe. Ce qui est tout à fait extraordinaire avec Landru, c'est qu'il a reçu, pendant la période où il était incarcéré, 800 demandes en mariage. C'est-à-dire que on est dans le paradoxe absolu de quelqu'un qui a quand même consacré une partie de sa vie à séduire des femmes et à les assassiner, pour les dépouiller, à les assassiner, et qui en même temps a un potentiel de séduction, un potentiel érotique qui fait que des femmes ont pu imaginer vivre avec Landru, devenir la femme de Landru. Et c'est ça, au fond, qui est un peu la métaphore de l'affaire criminelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans qui, en fait, résiste finalement à la compréhension rationnelle et à l'entendement. Il y a quelque chose qui se joue. C'est vrai pour Landru, mais c'est vrai aussi pour d'autres criminels qui reçoivent aujourd'hui en prison des demandes de mariage, et même parfois des femmes qui veulent avoir un enfant, etc.
Mais est-ce que c'est pas, finalement, le ressort profond, serait pas cette ambivalence des sentiments? C'est la même chose pour le tragique familial, c'est-à-dire qu'on ne déteste personne plus terriblement que ses proches, parce qu'ils sont proches. Et donc, l'affaire criminelle, s'agissant de ces rapports d'intimité, révélerait notre ambivalence.
Notre ambivalence et finalement notre proximité avec l'auteur de faits criminels. Proximité au point d'imaginer une relation sentimentale, proximité au point de procéder à une sorte d'héroïsation. Hein. On a des exemples, ces 40-50 dernières années, de beaucoup d'intellectuels hein, qui ont soutenu Pierre Goldman, Marc Nobel-Peace, Luc Tanguor, le violeur multirécidiviste qui a été défendu par Pierre Vidal-Naquet, puis qui a fini par un jour par dire « Non, je me suis trompé ». Donc vous voyez, on est au fond saisi par une forme de banalité. On raconte dans le livre, au moment du procès Fourniret, quelqu'un blague et toute la cour d'assises part dans une espèce de fou rire général. Jusqu'à un moment où le chroniqueur judiciaire Stéphane Durand-Soufflant, qui le raconte dans son livre et son assise, dit « Je me suis rendu compte que j'étais en train de me marrer avec Fourniret ». C'est-à-dire, mais si c'est possible, c'est parce que finalement, il y a une espèce de proximité dans cette distance absolue qui finalement n'est pas une distance si absolue que ça.
Alors, distance absolue, on pense immédiatement à l'archaïque et on pense à quelque chose de profond dont nous n'avons pas conscience, et heureusement, mais qui continue de vivre à travers nous. Et il y a des affaires qui le révèlent plus que d'autres.
Il y a une affaire qui révèle véritablement cette part d'archaïque et probablement d'invariant anthropologique. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui fait que c'est une des affaires les plus marquantes de ces 50 dernières années. C'est l'affaire Villemain. Vous savez, l'affaire Villemain, ça commence par un corbeau qui va révéler les non-dits du clan, qui va vouloir rendre justice aux bâtards.
On est vraiment dans le tribal, là.
On est dans la logique du clan. On est dans la logique du clan surdéterminée par la logique de la filiation, où tout le monde a un problème avec la filiation. Est-ce que mon père est bien mon père? Qui a couché avec ceci? Qui est le bâtard? Où il y a de l'inceste, etc. Mais il y a un être qui échappe complètement à la malédiction de la filiation, qui est en train de s'émanciper du clan, c'est Jean-Marie Villemain, c'est le père de Grégory. Et au fond, le clan va vouloir lui faire payer cette sorte d'émancipation à la fois psychologique, sociale, géographique, sociale, sentimentale aussi.
Il y a une question d'honneur, on voit réapparaître la question de l'honneur. Il a quitté la solidarité.
Il a quitté et du coup il renvoie au clan une image extrêmement négative de lui-même, alors qu'évidemment, le clan ne vit justement que de ne se confronter à aucune altérité. Et donc là, on est vraiment dans ce que vous disiez, la logique du bouc émissaire. Et cette logique du bouc émissaire, elle va réactiver aussi des éléments extrêmement archaïques. La vendetta, il va tuer son cousin. L'omerta, après ce meurtre, plus personne ne parlera. L'ostracisme, il va falloir qu'il quitte la région parce que finalement, il ne peut plus vivre avec les siens. Mais ce qui est fascinant dans l'affaire Villemain, c'est qu'il y a non seulement la logique du bouc émissaire, mais il y a une deuxième logique archaïque qui apparaît, qui est celle de la sorcière. Puisque finalement...
La femme,
et d'ailleurs, la raison pour laquelle Marguerite Duras est allée à l'Épanche sur Vologne, et a écrit son livre sur, son texte sur sublime, un crime sublime, c'est parce que pour Marguerite Duras, Christine Villemain, en tuant son petit garçon, finalement, elle libérait les femmes de la maternité, elle les libérait de l'assujettissement à la masculinité, etc. Et donc, elle a plaqué de manière totalement schématique et
qui ne l'a pas grandi, quand même.
Et hors sol. Alors, évidemment, elle est intervenue dans une procédure judiciaire et ça a beaucoup pesé dans la mise en examen. À l'époque, on disait l'inculpation de Christine Villemain. Mais c'est très intéressant de voir que cette inculpation qui ne repose sur aucun fait, finalement, elle est devenue consensuelle dans l'opinion publique parce que ça ne pouvait être que la mère. Comme on pouvait autrefois faire jouer à la sorcière ce rôle du mal, où arrive le mal.
Ou les classes dangereuses. Les classes dangereuses et les classes laborieuses, donc, ont cherché les gens sans aveu sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on cherchait les criminels parmi les faibles.
Forcément, parmi les gens, effectivement, est faible. Mais ce qui est très intéressant dans l'affaire Villemain, c'est que cette espèce de double archaïsme de la logique clanique et de la logique de la sorcière, finalement, est arrivé dans un moment où l'État a manifesté sa défaillance totale, son dérèglement total. Une instruction complètement folle, des policiers qui instruisent complètement à charge, qui mettent eux-mêmes des, plus ou moins des indices, une presse qui fabrique un coupable de toutes pièces, des avocats qui, pour essayer d'exculper un coupable, en inventent un autre. Donc en fait, toutes les institutions, tout d'un coup, se dérèglent,
deviennent folles,
perdent complètement la boussole, et dans cette espèce de perte de boussole, qu'est-ce qui rejaillit ce fond archaïque qui est marqué par cette logique clanique et cette logique de la sorcellerie, finalement.
Et qui se masquent eux-mêmes, ces mécanismes. C'est ça la force, c'est que finalement, à travers les récits que nous lisons dans Paris Match, beaucoup dans Paris Match, parce qu'il y a des journalistes qui se spécialisent dans ces affaires-là, et parfois ça devient leur propre affaire, elles vont nous permettre de vivre toutes ces dimensions archaïques, tous ces invariants anthropologiques, pour reprendre votre expression, sans en avoir conscience.
Oui, bien sûr, parce que ce qui caractérise l'affaire Villemain, et c'est un précédent d'ailleurs dans les affaires criminelles modernes et contemporaines, c'est que le journaliste, le médiatique, devient partie prenante de l'affaire. On cite souvent le cas du journaliste de Paris Match, Jean Kerr, qui interfère dans la relation entre Jean-Marie Villemain et son cousin Bernard Laroche. Dont le rôle n'est pas du tout de refléter simplement un état de fait pour en rendre compte à l'opinion dans son journal, mais d'interférer et finalement d'orienter soit la justice, soit les acteurs à certains comportements. C'est ça qui est aussi très nouveau dans cette affaire et qui, comme vous le dites, a pu aussi masquer au fond tout ce qui était la substance même de cette affaire en faisant une affaire essentiellement médiatique, alors qu'elle est médiatique, mais elle est médiatique pour des raisons sans doute anthropologiques extrêmement profondes.
Alors, il y a l'anthropologique, il y a aussi l'intrigue au sens, comment dirais-je, le plus classique, le plus théâtral du terme, c'est-à-dire on suit un feuilleton, ce qui paraît absolument évident, eh bien ne l'est plus, et je pense à l'affaire Omar Haddad. C'est-à-dire qu'il y a une désignation et l'affaire semble pliée, comme on dit, et pas du tout.
L'affaire Haddad est une affaire passionnante parce que finalement, elle montre finalement ce qu'est la vérité judiciaire, qui est une notion extrêmement importante. Parce que l'affaire Haddad, il y a effectivement, comme vous le dites, à la fois la victime qui semble désigner son assassin, avec l'inscription en lettres de sang sur une porte dans une cave d'une villa de Mougins dans les Alpes-Maritimes, Omar m'a tué. Et en même temps, quand on regarde matériellement les faits, on ne peut qu'être frappé par finalement la quasi-impossibilité matérielle pour la victime d'avoir pu écrire elle-même ce qu'elle a écrit sur cette porte. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui doutent en ayant eu accès vraiment au dossier de la manière dont les choses ont été reconstituées. Voilà. Il n'empêche, cette indécidabilité peut-être intellectuelle, à un moment, a été tranchée. Il a été condamné. Et à partir du moment où il a été condamné, il est coupable. Et puis, vous le savez, Omar Haddad a essayé ces dernières années d'obtenir la révision de son procès, qu'il n'a pas obtenu. Et donc, d'une certaine manière, cette vérité judiciaire est totalement définitive, ce qui veut dire qu'il est coupable, alors même que, si on regarde les faits eux-mêmes, on peut continuer à avoir du doute.
Et Emmanuel Roux, coupable, forcément coupable, parce qu'il s'appelle Omar Haddad.
Non, forcément coupable, parce que condamné.
Voilà, c'est ça.
Parce que condamné. Donc,
je veux dire, il y a aussi, là encore, comme dans chacune de ces affaires criminelles, certaines plus que d'autres, Bruant-Artois, c'est le conflit de classe, le conflit de clan dans le petit Grégory, et là, il y a quelque chose de l'ordre de cette femme très riche, Côte d'Azur, et puis l'ouvrier immigré.
Oui, bah, ça a été essentiellement la défense de rupture portée par Jacques Vergès, que de faire un parallèle entre Alfred Dreyfus, condamné parce que juif, Omar Radat, condamné parce que maghrébin. Je pense pour ma part que c'est une stratégie de défense extrêmement hasardeuse qui a empêché justement la défense de regarder la factualité des faits.
Qui était la stratégie de rupture de Vergès, mais qui avait effectivement qui avait ses limites. Alors, ça nous amène à parler de la question opposition très intéressante que vous faites sur l'opposition entre l'indice et la trace. C'est-à-dire que tout ça, ces affaires vont forcer les Français d'abord à faire de la procédure pénale, mais à faire aussi de la la génétique, la preuve ADN, vont s'intéresser à ce qui constitue la vérité.
Je pense que c'est une des transformations les plus profondes de l'affaire criminelle de ces 20-25 dernières années. C'est effectivement qu'on passe progressivement d'une culture de l'indice, où le policier réunit un certain nombre d'indices, puis à partir de là, échafaude des théories, avec toujours une dimension un peu intuitive de flair et autres, à la logique de la trace, où en fait, le criminel va laisser de lui-même des traces qui vont le relier à sa propre identité, que ce soit une trace génétique, que ce soit une trace, par exemple, liée au réseau de télécommunications, puisqu'aujourd'hui, en gros, quand on a de l'ADN et qu'on est capable de dire « vous étiez à tel endroit » à tel moment, parce que votre téléphone a borné, etc., on a déjà résolu souvent beaucoup d'affaires criminelles de cette manière. Et donc, finalement, cette traçabilité du criminel, c'est ça qui, aujourd'hui, au fond, est ce qui permet de résoudre les affaires. Et alors, ce qui est très passionnant, c'est que, du coup, ça transforme complètement non seulement notre rapport à l'espace, on cherchait des indices, maintenant on identifie des traces, mais notre rapport au temps. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, paradoxalement, autrefois, plus on s'éloignait du moment où avait été commis une affaire criminelle, plus la possibilité de la résoudre était faible. Mais aujourd'hui, comme on a un ADN, il suffit d'attendre que finalement l'ADN qu'on a recueilli puisse, comme on dit, matcher, ou en tout cas s'apparier avec l'ADN qui est dans un fichier, et on peut résoudre aujourd'hui des affaires au bout de 25-30 ans. Et du coup, ça pose la question derrière de la prescription. Ça veut dire, est-ce qu'on doit pas faire sauter la prescription dans la mesure où on est en capacité matériellement de résoudre une affaire criminelle 20, 30, 40, 50 ans après?
Et ça sera décuplé avec la virtopsie, où on fait des autopsies virtuelles, où on congèle les humeurs, les liquides corporels, si bien qu'on pourra refaire des autopsies dans 2 siècles ou 3 siècles. Mais ce que vous décrivez, Emmanuel Roux, dans le fond, c'est frappant. Ce que vous décrivez, c'est le monde numérique. Le monde numérique dans lequel nous sommes, mais que nous comprenons mal. Il y a un procureur disait il y a quelques semaines, aujourd'hui, en grande criminalité, on a toutes les preuves, ce qui nous manque, c'est les enquêtes. Et ce que vous nous dites, c'est un peu la même chose. On a toutes les preuves, parce que le numérique fournit tellement de preuves, de tellement de manières, qu'on pourrait tout savoir. La question, c'est quelle question on va poser.
En fait, on a beaucoup de données. Vous dites ce qui manque, c'est les enquêtes. Ce qui peut manquer aussi, c'est au fond la capacité de faire des arbitrages. Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, a été créé un pôle dédié, ce qu'on appelle les cold cases, les affaires non élucidées. Et il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où on nous dit pas, tiens, cette affaire, elle a été versée à ce pôle dédié à la recherche de la vérité de crimes non élucidés. Et finalement, au fond, il y a bien un moment où il faudra qu'on fasse des choix. On a des moyens limités d'investigation, on a des éléments qui sont très importants à exploiter en termes de scellés, en termes d'ADN, en termes de choses comme ça, mais au fond, quelles affaires on va privilégier? Et du coup, ça pose un vrai problème. Parce qu'au fond, les familles elles-mêmes, parties civiles, qui se mobilisent de plus en plus avec des avocats pour justement exploiter toute cette traçabilité criminelle qui permet d'élucider des choses qui n'ont pas pu l'être. Et au fond, de quel droit on va dire, non, ça, on va se concentrer, on va rouvrir le sujet, là, non, parce que finalement, on dispose peu de moyens. Ça pose des vrais problèmes d'arbitrage et de choix.
C'est plus que des problèmes d'arbitrage, ça pose une question de la définition de la justice. Jusqu'ici, la mort d'un homme, et surtout la mort intentionnelle, un crime, était quelque chose, la justice n'a pas pas de prix. Elle a un coût, mais elle a pas de prix. Et donc là, cette abondance d'épreuves, cette transformation du rapport au temps que vous qui transparaît, qui nous est révélée par ces affaires, m'a donné une dimension économique à la justice. Vous connaissez, êtes bien placé pour le savoir. Vous faites l'économie des politiques publiques toute la journée à la Cour des comptes. Emmanuel Roux, c'est quand même une très grande question. Ça, même une question. Ça veut dire que la vérité, rendre justice à une victime résultera de choix budgétaires.
Elle résultera pas seulement de choix budgétaires, parce que de toute façon, une politique publique, elle est toujours en train de s'interroger sur l'allocation de ses ressources. Donc il y a toujours des priorités, il y a toujours des choses qu'on fait pas. Et donc ça, c'est le lot de toute politique publique, même de tout usage d'argent ou en tout cas d'investissement. Par contre, ça va faire une distinction de mon point de vue entre finalement les parties civiles, c'est-à-dire les familles par exemple, qui auront la force, la conviction, le courage finalement de mener des combats pour la justice, et on voit de plus en plus d'ailleurs des associations qui se constituent, etc., et la capacité aussi des avocats de pouvoir aussi être sur le dos des juges d'instruction, éviter les prescriptions, demander à ce que des scellés soient conservés dans des conditions normales pour pouvoir être exploités, demander à ce qu'on refasse des expertises ADN. Vous avez, au fond, tout est là, en fait. Et donc, c'est pas simplement une question de moyens. C'est une question de motivation, c'est une question de détermination, et c'est une question aussi, peut-être plus philosophique encore, qui est quel statut on donne à la victime dans le système judiciaire. Parce que si, effectivement, on continue à lui donner un statut majeur, si on le met vraiment au cœur, à ce moment-là, la question des moyens se réglera d'elle-même. On trouvera les moyens pour rendre justice aux victimes.
Parce que cette victime entraîne notre compassion. C'est vieux comme le monde. Dans ce que vous racontez, ce que vous décrivez, elle nous inspire terreur et pitié, la victime.
Et ça, tout à fait. Et ça rejoint cette question de la proximité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand des parents se mobilisent pour savoir dans quelles conditions leur fille de 18 ans a été assassinée, etc., au fond, l'empathie est très forte. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans l'affaire criminelle. On dit toujours, l'affaire criminelle, c'est gore, on s'intéresse à des choses un peu sordides, un peu sanguinolentes. Moi, je suis pas du tout d'accord. Au contraire, l'affaire criminelle, ça éveille en nous l'empathie, la pitié, la compassion, la solidarité. Ce sont aussi des... S'intéresser aux affaires criminelles aussi, c'est aussi retrouver une part, au fond, oui, d'humanité.
Ça. Absolument. Voilà. Oui.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse. Lentement. Vers ma destinée, mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamnée. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
Esprit de Justice qui continue de s'intéresser aux affaires criminelles, ou plus exactement à notre intérêt pour les affaires criminelles, en compagnie d'Emmanuel Roux, qui a écrit avec son frère Le goût du crime sur ce sujet et qui a choisi de nous faire entendre ce second air, Mourir d'aimer, par Charles Aznavour. Emmanuel Roux.
Oui, c'est une chanson magnifique qui revient sur l'affaire Gabrielle Russier, qui est une professeure qui avait été condamnée pour avoir vécu une histoire d'amour avec un de ses élèves et qui s'était suicidée. Donc on est aussi dans ce
avec une différence d'âge qui n'était pas si grande que
Non, qui pour l'époque l'était sans doute beaucoup, mais qui n'était pas si important que ça. Et puis un garçon mineur, mais déjà d'une très grande maturité. Bon, enfin, parvenir forcément sur le détail, mais je l'ai cité aussi parce que ça montre aussi finalement l'affaire criminelle. Alors là, c'est une infraction pénale. Bon, il n'y a pas de crime au sens crime de sang, etc. Mais enfin, c'est une affaire criminelle au sens où elle a été quand même condamnée. Parce qu'à quel point, du coup, ça touche une société. Charles Aznavour s'en est saisi, il a écrit une très belle chanson et souvenons-nous souvenons-nous de la conférence de presse Georges Pompidou à qui on demande à la fin s'il a une réaction par rapport à cette histoire extrêmement triste, qui ne fait aucun commentaire mais qui se contente de réciter quelques vers d'Éluard. Et ça, c'est quand on revoit ça, c'est vraiment extrêmement émouvant. Et c'est toute la profondeur littéraire, toute la culture, toute la subtilité, toute la sensibilité aussi de cet homme qui ne répond pas en politique, mais qui répond finalement en poète.
Qui était un grand spécialiste de la poésie française.
D'ailleurs, comprenne qui voudra, ce poème de Paul Éluard est un des derniers de son anthologie de la littérature française, qui est un texte absolument formidable qui s'intéresse à la poésie.
Mais alors, il y a aussi cette énigme du passage à l'acte. Dans Gabrielle Russier, elle craque, on pourrait dire. Elle craque, c'est-à-dire qu'il y a cette accusation, cette condamnation. Et puis finalement, beaucoup d'entre nous peuvent être en proie un jour de leur vie à des pulsions suicidaires, à envisager le suicide. Elle est passée à l'acte. Elle est passée à l'acte et c'est ça aussi dans l'affaire criminelle. C'est-à-dire que les potentialités d'une relation dégradée, d'une famille dysfonctionnelle sont immenses, mais à un moment, le crime intervient.
Oui, c'est ce qu'on appelle dans le livre l'abîme du momentum, c'est-à-dire effectivement cette bascule. Notre réflexion, en fait, elle a été très stimulée par le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis, qui s'intéresse énormément à ces affaires, notamment à une affaire qui s'est passée dans les débuts des années 2000, le fameux charcutier du marché Saint-Martin qui un homme sans histoire, mais qui a tué sa maîtresse, qui l'a coupé en petits morceaux, qui a éparpillé le corps partout, etc. Et finalement, il se demande comment il en est arrivé là. Mmh. Et il parle à un moment de absence à soi-même. Mmh. Et en fait, ça serait trop simple je m'absente, je suis moi, mais tout d'un coup, je m'absente à moi-même, je deviens un criminel et après je reviens à moi-même. Et en fait, ça marche pas. Parce que si on revient à soi-même après s'être absenté à soi-même, on va se dénoncer à la police. On va dire, j'ai commis quelque chose de... Donc ça veut dire que il y a quelque chose de beaucoup plus profond, je dirais, dans ce passage à l'acte. Mais quand on essaye de creuser, on s'est confronté à un abîme de questions parce que on pourrait se dire, on a tous une prédisposition finalement à passer à l'acte et à tuer. Simplement, il y a un certain nombre de verrous sociaux qui nous empêchent de... Et vous savez, on cite le fameux mythe de Gigès La République de Platon, qui trouve un anneau qui le rend invisible, et étant invisible, étant assuré de l'impunité, il se met à tuer, à violer, etc., etc. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on dit qu'il faut considérer Sisyphe heureux. Nous, on dit qu'on peut aussi considérer des Gigès vertueux. Oui. Moi, si demain j'ai un anneau et que je deviens invisible, peut-être que je ferai le bien. Donc on peut pas non plus s'abriter derrière une espèce d'anthropologie du mal où on dirait, c'est tout à fait. Et donc, quand on fait une espèce de régression un peu à l'infini pour essayer de saisir ce moment du momentum, on est confronté au mystère.
On sent que vous n'aimez pas beaucoup, d'ailleurs, le sens psychopathologique que donnent les experts, et notamment les experts psychiatres, à ce mystère. Vous voulez garder ce mystère et vous pensez que le mystère d'une affaire criminelle, c'est véritablement son moteur d'attention.
En fait, on est assez méfiant envers tout ce qui se présente comme étant des généalogies objectives. On vous dit, regardez les grands serial killers, ils ont tous eu une enfance fracassée. Alors, sans doute, enfin, tous les gens qui ont eu une enfance difficile ne sont pas non plus devenus des serial killers.
Et c'est la majorité.
Donc, il y a une limite à l'analyse. De la même manière, la psychiatrie doit jouer pleinement son rôle dans les affaires criminelles, ne serait-ce que parfois de dire que quelqu'un est irresponsable, ou pour parfois expliquer une psychologie particulière, un rapport au monde particulier, etc. Mais effectivement, aller trouver une espèce de cause qui va comme quelque chose qui va vous pousser dans le dos et qui va finalement vous exonérer de votre responsabilité, c'est quelque chose en fait qui n'est pas vraisemblable.
Mais je pense à la phrase d'Anna Arendt, la célèbre phrase d'Anna Arendt où elle dit c'est pas l'histoire qui est la cause des événements, ce sont les événements qui éclairent a posteriori l'histoire. Il y a cette phrase extrêmement profonde d'ailleurs, je pense, parce que c'est la singularité et l'autonomie de l'événement.
C'est la singularité d'un événement qui répond quand même souvent à une occasion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que on bascule dans le passage à l'acte parce que quelque part on a une occasion qui fait que l'on va agir dans un certain sens. L'exemple que l'on donne, c'est les sœurs Papin. Mmh. Les sœurs Papin, qui sont deux sœurs au Mans, qui assassinent, qui sont toutes les deux des bonnes, hein, ce que Jean Genet appellera les bonnes, s'inspirant dans sa pièce de théâtre, s'inspirant des sœurs Papin, et qui vont assassiner leur maîtresse et sa fille avec un degré de sauvagerie absolue, puisqu'elles vont leur arracher les yeux. Bon, sœurs Papin. Évidemment, tout le monde s'est penché sur ce sujet. Comment ces deux sœurs, alors qu'on leur a fait juste une remarque en passant, vous avez cassé le fer à repasser, on vous retiendra ça sur vos gages, peut-être qu'elles se sont pris une petite claque, on ne sait pas. Mais il y a une disproportion totale entre ce qu'on leur a reproché et puis cette espèce de fureur meurtrière dans laquelle elles sont rentrées. Et là, on peut dire, mais finalement, elles étaient peut-être pas des criminelles en puissance si elles avaient été toutes
elles
seules, mais le fait qu'elles soient deux tout d'un coup, il s'est créé quelque chose. Il y a, si vous voulez, dans le moment, il y a le momentum, mais ce momentum, il arrive dans un contexte particulier, dans une contingence particulière, dans une occasion particulière. Et c'est peut-être ça qui fait que, on dit, nous, on a un chapitre, on dit l'occasion fait le larron, c'est-à-dire l'occasion fait le criminel.
Il y a une excellente série israélienne, Our Boys, ce qui porte sur la question, qui est de trois garçons qui sont des juifs fondamentalistes qui vont commettre un meurtre qui n'est pas du tout celui qu'ils avaient imaginé. Qui n'est pas du tout celui qu'ils imaginaient, qui font autre chose d'horrible d'ailleurs. Bon. Et donc, ça pose la question de l'événement en soi. Ces affaires, ce sont des intentions, mais des intentions qu'on n'arrive jamais véritablement à élucider. C'est très rare qu'on arrive à dire, voilà, il a fait ça pour ça.
Oui, et de ce point de vue-là, la psychiatrie, parfois, c'est un peu comme la vertu dormitive de l'opium dans le malade imaginaire. C'est-à-dire, pourquoi l'opium fait-elle dormir? Parce qu'elle a une vertu dormitive. Pourquoi Hubert Caouissin a-t-il assassiné toute la famille Troadec? Parce qu'il est pris d'une espèce de folie résonante, disait le psychiatre Daniel Zaguri. Oui, mais enfin, la folie résonante, qu'est-ce que ça explique du passage à l'acte? Oui. Donc, on plaque souvent sur ces choses, sur ces événements irréductibles, des grilles d'interprétation qui peuvent éclairer une partie, mais qui finissent toujours par aller, à mon sens, buter sur quelque chose d'irréductible.
Alors, quelque chose d'irréductible, mais que le procès va tenter de réduire, va tenter d'humaniser, va tenter de juridiciser, de socialiser, appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans ces affaires, c'est aussi des récits sur la justice, sur l'institution judiciaire.
Le procès est passionnant comme véritablement dénouement. On dit d'ailleurs dans le livre « au dénouement était le verbe ». Parce que finalement, qu'est-ce qu'on attend du procès qui est construit? Le procès moderne, dans la procédure pénale moderne, il est fondamentalement construit sur une philosophie de l'oralité. C'est-à-dire que c'est dans les débats...
Du momentum, on revient, il se construit en miroir par rapport au crime.
Et on attend quelque chose de l'oralité, du fait que finalement on laisse de côté la procédure écrite, on demande aux témoins de redire ce qu'ils ont dit, on demande à l'accusé de raconter sa vie, de raconter son acte, etc. Et on attend de cette espèce de puissance de l'oralité, de la confrontation dialectique des points de vue, on attend que quelque chose surgisse. Ce qu'on attend ultimement, bien sûr, c'est la vérité des faits, si elle n'est pas constituée, par exemple, on attend des aveux, mais on attend aussi le regard de l'accusé sur ce qu'il a fait. On attend un moment réflexif.
Une explication.
On attend justement la vérité de l'événement. C'est ça. Le sens de l'événement. Mais qui peut donner le sens de l'événement? Celui qu'il a, d'une certaine manière, commis. Et tout le procès a une dimension à la fois maïeutique, cathartique, aussi d'anamnèse, du sujet qui va essayer de lui-même de voir clair dans ce qu'il a fait, de sortir de ses dénégations, de sortir de cette espèce de forclusion dans lequel, souvent, il n'arrive pas à sortir. Et on raconte beaucoup de procès comme ça, où tout d'un coup, comme dans le procès de l'affaire Richard Roman, l'affaire de Maud Duquer,
ou
l'affaire Guy Georges. Parce que l'affaire Guy Georges, il est exemplaire, parce qu'à un moment, Guy Georges prend la parole, reconnaît les faits, Et à partir du moment où il reconnaît les faits, il va engager une deuxième temps de prise de parole sur, mais au fond, qui suis-je, moi, Guy Georges? D'où viens-je?
Et son enfance.
Qu'est-ce qui, dans mon histoire, m'explique? Pourquoi m'a-t-on abandonné quand j'avais 3 ans? Pourquoi ma mère a voulu que je change de nom? Pourquoi pour que je ne porte pas son nom? Pourquoi la famille d'accueil, près d'Angers, qui m'a accueilli, m'a rejeté? Pourquoi? Et donc, il revient sur sa propre identité en pensant que c'est là que finalement, on va pouvoir donner du sens à l'événement. Et ce qui fait que le procès Guy Georges est un procès emblématique et aussi réussi du point de vue des parties civiles, c'est pas simplement parce qu'il a avoué, alors qu'il s'était muré dans la dénégation pendant des mois et des mois, c'est aussi parce qu'il a essayé de s'interroger sur sa propre identité criminelle, sur sa propre identité. Et c'est d'une certaine manière un retour vers une forme d'humanité que de partager avec les parties civiles, avec les représentants des victimes, cette interrogation sur quel est le sens de mon acte. Pourquoi est-ce que j'en suis venu à commettre cet acte?
Et donc un apaisement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la curiosité dans cet intérêt pour les affaires criminelles, la curiosité, ce côté même parfois un peu trouble, archaïque, a-t-on dit. Et là, on aborde un autre aspect qui est, comme dans toute tragédie, après la crise, l'apaisement. Mmh. Et le rôle des médias, le rôle du procès, bien sûr, lui-même, mais ensuite le rôle des médias et le rôle de l'écho que ce procès va avoir, ça va être d'apaiser nos inquiétudes métaphysiques.
L'apaisement, il vient toujours de la coïncidence de la vérité et de la justice. Au fond, c'est ça qu'on attend d'un procès. On attend la vérité pour rendre la justice. La justice ne pouvant pas se rendre dans la fausseté. Elle ne se rend que de la vérité. Et c'est extrêmement vrai qu'une fois qu'on a cette vérité et cette justice, et que la peine, justement, elle est proportionnée finalement à l'acte lui-même, ben finalement, on referme un cycle. On referme pas tout. Les familles vivent avec la perte de l'être aimé, avec le souvenir aussi de ce qu'il a enduré, de la cruauté des actes, etc. Ça c'est vrai. Ça c'est irréductible qui est dans les mémoires. Mais à côté de ça, on clôt un cycle, et vous avez raison de parler d'apaisement, quand effectivement le procès a permis à la fois de réunir, c'est ça la grandeur finalement de l'affaire, à la fois la vérité et la justice.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu optimiste, Emmanuel Roux, parce que on referme ou pas? Parce qu'il y a un certain nombre d'émissions de télévision, je pense, et là encore c'est lié à la société du spectacle, là encore c'est lié au numérique, là encore c'est lié au fait qu'on a des preuves qui sont toujours vivantes et qui sont plus parlantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ou 15 ans. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentative, cette difficulté typiquement moderne d'apporter un épilogue à ces affaires tragiques?
Alors, il y a des affaires, et d'ailleurs souvent les très grandes affaires criminelles sont des affaires justement pour lesquelles on n'a pas le mot de la fin. Dominici, Bruyère-en-Artois, Villemain, Godard, Chevaline, Dupont de Ligonnès, et puis d'autres affaires moins connues, parce que dans le livre, évidemment, on revient sur les affaires les plus connues, mais il y a aussi beaucoup d'affaires criminelles qui sont moins connues, mais aussi qui mettent en jeu la disparition, l'être qui disparaît du jour au lendemain et dont on est incapable de savoir où il se trouve, s'il est vivant, etc. Et donc, en fait, cette part irréductible de la disparition non élucidée ou du crime pour lequel on n'arrive jamais à trouver finalement le coupable, les coupables, même à comprendre comment il s'est produit, etc. Ça constitue, c'est pour ça que je disais aussi que dans l'affaire criminelle, il y a une résistance du réel, ça constitue effectivement le moteur principal de l'intérêt médiatique. D'ailleurs, regardez, beaucoup d'émissions, beaucoup de podcasts reviennent sur des affaires justement non élucidées.
Oui.
Mais il y a aussi des affaires, mon optimiste, il vient du fait que c'est pas un optimisme, c'est que je constate qu'il y a aussi des affaires qui permettent à un moment, d'une certaine manière, de parvenir à une vérité, pas simplement une vérité judiciaire, mais une vérité des faits,
etc. Vous pensez au Grêlé, la fameuse affaire du Grêlé, qui est un pied de nez à la justice, mais qui est une explication, qui vient post-mortem.
Alors, l'affaire du Grêlé, ça mériterait une émission en soi. Parce que c'est une affaire qui redéfinit ou qui redistribue toutes les cartes. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, la question du parcours criminel, le rapport à l'autorité, le rapport à effectivement utiliser un uniforme de gendarme ou de policier pour commettre des crimes, des viols, etc. Ça met au cœur la relation la dimension du parcours criminel. C'est ça qui est, je trouve, absolument fascinant. C'est que l'affaire criminelle ou le criminel, le crime, c'est pas une succession, c'est un parcours. On commence à une certaine époque, puis ensuite on change d'espace, on change de lieu, on change de mode opératoire, etc. Et derrière, vous avez des policiers, des magistrats, etc., qui justement doivent s'adapter à cette espèce de transformation profonde, etc. Et puis on connaît le coupable, mais en fait, en même temps, on ne sait rien de finalement de sa psychologie, on ne sait strictement rien. Donc c'est une affaire extrêmement poignante, en fait, l'affaire du Grêlé.
Pour nos éditeurs, je rappelle, pour le Grêlé, c'était des séries de viols et de suivis de meurtres.
Ça a commencé en 1986 à Paris, dans le 19e, par l'assassinat et le viol d'une jeune fille, Cécile Bloch, qui avait 11 ans, et en fait, qui a été suivi d'autres viols, d'autres assassinats dans d'autres quartiers de Paris, dans d'autres lieux de la région parisienne, mais sans que on ait pu, sauf très récemment grâce à l'ADN, reconstituer finalement qu'il s'agissait bien du même auteur qu'on a appelé le Grêlé, alors de manière abusive, parce oui. qu'au fond, dans les premiers portraits robots qui ont été faits en 86, on a décrit un jeune homme de 20-22 ans qui avait la peau un peu abîmée, la peau grêlée.
Voilà. Et donc, il y a cette relance possible par les médias, et ça serait terrible, un monde dans lequel ces affaires ne trouvent jamais d'épilogue.
L'exemple le plus fascinant, c'est l'exemple de... C'est une affaire aussi absolument extraordinaire, extrêmement poignante, extrêmement dure, qui est l'affaire des disparus de Lyon.
Oui.
L'affaire dite Émile Louis, etc.
Bien sûr, ben, on l'a retrouvée, oui.
Qui a été aussi relancée par les médias. On se souvient de l'émission de Jacques Pradel, Perdu de vue, mais aussi qui a été relancée parce que des familles se sont mobilisées, des gens extrêmement aussi généreux qui ont donné de leur temps pour arriver à mettre un peu l'institution judiciaire face à ces palinodies et face à ces défaillances. Parce que qu'est-ce que nous raconte cette histoire aussi? C'est que dans les grandes affaires criminelles, on a toujours à un moment plus ou moins une défaillance de l'État, du système judiciaire.
On a les deux. On a le procureur courageux, mais qui a été sanctionné ensuite pour d'autres raisons, et puis la défense de l'institution.
Là, on a une institution quand même qui dysfonctionne gravement. On a un gendarme qui élucide l'affaire 10 ans avant tout le monde et qui ensuite se suicide dans des conditions extrêmement troubles. Bon, mais on a effectivement le relais médiatique qui à un moment remet ce sujet sur la place publique. Et de ce point de vue-là, c'est là où les médias aussi jouent aussi un rôle extrêmement important de donner véritablement, d'éviter l'oubli, d'éviter que des affaires tombent dans l'oubli.
Emmanuel Roux, on a parlé de beaucoup de choses au cours de cette émission. On n'a pas beaucoup parlé de politique. Est-ce que ces affaires criminelles seraient pas... Ma question est double. C'est une manière de faire de la politique sans la nommer, ou est-ce que ça parle d'un registre de la vie ensemble, de la société, qui n'est pas politique, qui serait plutôt pré-politique?
Oui, bien sûr, ça parle de la famille, ça parle de la morale, ça parle des passions, ça parle de la mort, ça parle de l'éducation, ça parle de tas de sujets. Mais le politique n'est jamais très loin, y compris d'ailleurs dans ses usages les plus contestables. On peut penser à des affaires de récupération, y compris très récemment. Il y a une manière de se saisir de l'affaire criminelle, de s'en saisir adéquatement, qui, à mon avis, doit distinguer la bonne politique de la récupération politicienne, quand même relativement contestable.
Et ça grandit encore plus la réponse du président Pompidou.
Ça grandit la réponse du président Pompidou, oui. Mais est-ce le président, est-ce l'homme, est-ce le poète, est-ce l'humaniste qui a répondu? Pompidou était aussi quelqu'un qui justifiait la grâce de Paul Touvier en disant qu'il fallait en finir avec cette période où les Français ne s'aimaient pas. Donc,
et finalement, si je vous ai bien compris, ces affaires de criminels nous apprennent à devenir hommes, Emmanuel Roux.
Elles sont pour moi une école d'humanité et de compréhension finalement des mécanismes de la société.
Merci beaucoup Emmanuel Roux, Le Goût du Crime. Et à la technique ce soir, il y avait Jean-Guilain Meige, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sandrine Chaperon, une émission d'Antoine Garapon.